Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Et pas seulement, on parle catch pendant une petite heure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Elimination Chamber de la WWE qui avait lieu le 21 février. Toujours au Tropicana Field Center, toujours à Saint-Pétersbourg en Floride. Le Thunderdome, comme on appelle ça, la chambre d'élimination. Pour m'accompagner dans cette analyse, dans cette review, l'inénarrable Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël ?
Salut Ringside. Eh ben, écoute, ça va bien, et puis ça tombe bien, hein, puisqu'on était là pour le dernier SmackDown avant l'Elimination Chamber. On a donné nos pronos. Et ben voilà, on est les mieux placés pour voir si on a eu bon ou pas. C'est parti, suspense.
C'est ça, on va faire le point, le bilan, l'inexcusable bilan, l'impardonnable bilan. On va voir si on a été bon ou si on a été mauvais dans ces pronos pour cet Elimination Chamber qui était pas très provisionné. Il n'y avait pas beaucoup de matchs.
Non.
Et surtout, il y en a un qui a disparu de la carte. Alors, on va pas tourner autour du pot. On n'a pas vu le pré-show, hein, que ce soit toi, Raph ou moi. Pourtant, il y a eu de l'action, puisque Keith Lee, qui devait participer au match pour le titre US face à Bobby Lashley et Riddle, et ben, il doit être toujours malade, je pense, Keith Lee. Alors, j'espère qu'il va bien. Mais en tout cas, il n'a pas pu participer. Donc, ils ont décidé d'organiser un match Fatal 4-Way pour déterminer un nouvel entrant dans ce Triple Threat pour le titre des USA. Et donc, Elias, Ricochet, Mustafa Ali et John Morrison s'affrontent pour pouvoir intégrer le Triple Threat du pay-per-view. Et alors, on aura un petit résumé hein, pendant l'Elimination Chamber. Et c'est la victoire donc de Mustafa Ali. N'importe non. quoi, une victoire de Mustafa Ali. C'est pas du tout crédible. Ça, c'est pas avant 2022. Non, c'est bien John Morrison. C'est pas beaucoup plus crédible, mais bon, c'est bien John Morrison qui s'en tire justement en faisant un petit paquet sur Mustafa Ali qui était un petit peu distrait par ce qui se passait à l'extérieur, c'est-à-dire Elias qui était en train de taper sur la gueule de Ricochet. Ricochet puis, qui avait commencé le match en attaquant très fort Mustafa Ali, mais tout ça n'a pas payé. Donc Jomo en lice pour le titre US. Tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire, a priori, il y a eu aussi tous ses copains hein, de Retribution qui sont intervenus un peu, qui étaient au bord du ring, mais visiblement, c'est pas gagnant. Hein. Même en ayant 2-3 Golgoth à côté, Mustafa Ali, il n'y arrive pas. Non, effectivement, t'as raison. Surprise, nouvelle surprise de Keith Lee hein, qui a raté le Rumble. Qui rate l'Elimination Chamber. Vu tout ce qu'on nous a dit, supposé, espéré, imaginé ces derniers mois en coulisses sur tout le programme qui aurait pu l'attendre dans cette road, on se dit qu'il doit y avoir des ajustements là, de dernière minute qui se sont faits parce que c'est un absent quand même de taille, hein, au sens propre comme au figuré.
Ouais, effectivement, on était sur le gros projet Keith Lee. On peut dire du coup que les pronos pour le titre US sont nuls et non avenus.
Hein oui, non, c'est pas notre faute.
On est d'accord. Hein, que ouais. Si on n'a pas été bon dessus, c'est pas du tout grave d'ailleurs. Voilà, on peut considérer même qu'on a eu juste.
Hein, on nous donne le point, ouais.
Sur le pronos, on nous donne le point, effectivement. Donc, bon, apparemment, le match avait pas l'air d'être trop dégueu, mais comme on l'a pas vu, on pourra pas vous en dire plus.
Dites-nous en plus en commentaire.
Voilà, hein, dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match de pré-show, qui est toujours dispo hein, sur YouTube. Hein, si vous allez sur le pré-show de l'Elimination Chamber, c'est gratos. Et donc, la surprise, John Morrison, qui intègre le truc, pourquoi pas. C'est pas le plus manchot de tous. Voilà, à part Ilaya, je pense qu'on aurait été content de voir que ce soit Ricochet ou Mustafa Ali. Moi, j'aurais bien aimé voir Mustafa Ali un petit peu tirer son épingle du jeu, mais évidemment, c'est pas pour tout de suite.
Nine.
On abandonne aussi un match qui opposait Asuka à Lacey Evans. Il n'aura pas lieu ce soir puisque Lacey Evans est enceinte et qu'on s'interroge toujours sur l'identité du père. Hein, faut pas négliger peut-être Ric Flair, mais on ne sait pas qui est faible en parlant.
Alors ça, je trouve ça très bizarre. Je pense qu'ils n'avaient aucun plan de secours. Et à notre regret, hein, puisque dans le dernier, dans la dernière analyse, on se prenait à rêver d'un remplacement par Charlotte. Moi, j'avais dit peut-être Becky Lynch. Et je pense qu'en fait, pour moi, c'est très bizarre. Ils ont, comme ils n'avaient pas de plan de remplacement, ils ont annulé au dernier moment pour justifier le fait qu'il n'y ait pas eu le temps de faire un remplacement. Enfin, pour moi, c'est un peu bizarre. Ils ont annulé le match la veille alors qu'on savait qu'elle était enceinte depuis une semaine. C'est comme si être enceinte, c'était avoir le Covid. C'était ah merde, elle est toujours enceinte. Bon, bah, du coup, oui.
Mais elle se couche pendant les deux jours.
Ouais, non, c'est bizarre.
C'est mais, horrible.
Petite déception qu'ils n'aient pas réussi à mieux nous prévoir une rechange parce que bah, c'est ce titre d'Asuka, hein, s'il n'est pas très défendu souvent, donc c'est un peu dommage.
Ouais, bah écoute, t'as bien raison de souligner ce fait parce que j'allais passer ça un petit peu rapidement, lancer dans ma foulée un peu de vous raconter les choses. Mais c'est vrai qu'on peut se poser 5 minutes pour analyser ça et c'est un putain de scandale hein, pour parler vulgairement, mais laisser voilà, annuler un match comme ça sans donner de justification, sans essayer de créer une histoire qui tient la route, sans en profiter pour rebondir, la WWE nous a pas habitué à ça. Alors est-ce que c'est encore un des problèmes du Covid qui fait qu'ils peuvent pas non plus appeler n'importe qui à la rescousse?
Oui.
Maintenant, il y a du monde, il y en a hein, quand même. Pour,
ouais, on juste parlait de Peyton Royce, ouais.
Mmh, ouais, tout simplement Peyton Royce ou n'importe qui. Je veux dire, il y a des femmes en réserve. Hein. On aurait pu faire un triple threat, on aurait pu faire n'importe quoi, mais on va voir que ce soir, effectivement, niveau scénarisation, y a du laisser aller. Hein. On en tirera les conclusions un peu plus tard quand on aura fini la review, mais. Ça, c'est le premier point noir de la soirée. Alors voilà, pour l'absence de Keith Lee, on arrive à monter un Fatal 4-Way. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, pour quand même le championnat féminin, d'Euro, aucun effort, quoi.
Oui, surtout qu'à mon avis, c'était plus facilement prévisible, je ouais. reviens sur le sujet,
encore une fois, ouais.
que celui de Keith Lee, parce qu'on a tous vu à Raw, Lacey Evans, elle a dit « je suis enceinte » et elle n'a pas catché. Et donc forcément, ça n'allait pas s'arranger en 6 jours. Mais elle aurait par contre, je pense que voilà, elle est en tout début de grossesse, elle aurait très bien pu venir, ne serait-ce que venir là, prendre le micro et nous dire « voilà, machin, tout ça, je suis enceinte », un peu comme avait fait Becky Lynch, voilà, nouvelle vie, nouvelles aventures, etc. Et... je sais pas, ils auraient pu nous bidouiller un truc de 5 minutes, je suis assez déçu.
Ouais, ouais. Et encore, pas de mise en avant d'Asuka, qui est quand même la championne, et qui est reléguée au second plan depuis un bon moment.
Clairement.
Donc, c'est triste à mort. C'est triste à mort, comme disent les jeunes. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, de toute façon, on va en avoir des choses à dire. On démarre direct avec l'Elimination Chamber de SmackDown, qui voit s'affronter Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso, Kevin Owens, Sami Zayn et le roi Corbin. Ils s'affrontent pour avoir un title shot contre Roman Reigns, title shot qui aura lieu le soir même. Donc c'est un cadeau empoisonné, hein, puisque au sortir d'un Elimination Chamber, aller affronter Roman Reigns, le champion, c'est quand même une drôle d'histoire.
C'est toujours mieux que rien, on dira, mais bon.
C'est ça, c'est toujours ça. Mieux que rien, voilà, bah, c'est tout ce que nous laisse Roman Reigns à l'heure actuelle.
Ouais.
Alors Sami Zayn va rentrer dans sa cage et on va faire partir son staff de réalisateur et de caméraman, hein, qui le suit toujours pour son documentaire, mais ils n'auront pas le droit de rester. Et c'est Daniel Bryan et Cesaro qui démarrent le match face à face, donc ça va catcher... de manière assez classe, hein, toujours entre Cesaro et Daniel Bryan, jusqu'à ce que le Baron Corbin fasse son entrée.
Ouais.
Et là, ça va taper assez fort, hein, démonstration de force de Corbin. Il y a une petite séquence sympa où ils vont jouer avec les diagonales, là, Daniel Bryan qui va partir pour ses dropkicks dans le coin du ring. Ça va enchaîner sur Cesaro qui part pour ses uppercuts là, et hein, il va contrer Bryan dans sa lancée, et puis lui s'est lancé lui-même pour faire des uppercuts là, d'un côté comme de l'autre, et finalement ils vont se faire cueillir par le Big Six du roi Corbin. Jolie petite séquence. Ensuite, Ensuite, c'est Sami Zayn qui rentre. Mais il va pas. Il y a Baron Corbin qui vient pour l'accueillir en quelque sorte. Mais alors, Sami Zayn va fermer la porte. Il va rester caché derrière. Je sais plus qui c'est qui arrive par derrière parce que l'autre côté est ouvert en fait. Il y a deux entrées.
Oui, j'ai l'impression que c'est nouveau ça dans la cage.
Ouais, elle a changé un petit peu de forme, hein, la cage par rapport aux autres années. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des tapis au sol là où il y avait les grilles avant.
Ouais.
Du coup, c'est beaucoup moins impressionnant qu'avant. Et donc maintenant, vous avez deux entrées, c'est-à-dire qu'il c'est un carré comme ça la cage et vous avez deux portes coulissantes d'un côté comme de l'autre. Donc d'un côté, il était protégé par la porte pour faire face à Corbin, mais il voit pas arriver derrière lui Daniel Bryan qui vient d'attaquer et ainsi donc continue le match. Hein, bon, c'est assez joli hein, ce qui se passe. Y a Kevin Owens qui débarque. Donc ça va continuer à se foutre sur la gueule. Je crois que le premier sorti, c'est le Baron.
Exact.
Qui est éliminé par un sharpshooter de Cesaro. Je crois que c'est même avant l'entrée de Kevin Owens.
C'est possible, oui.
Ouais. Et donc après, bon, c'est un peu le Kevin Owens show pendant un bon moment.
Ouais.
Ensuite, il y a Jey Uso qui débarque. Ça va se fighter sec. Que je dise pas de bêtises parce que j'ai pris aucune note. Qui c'est qui part après? C'est Kevin Owens, hein, je crois, qui finit par se prendre un splash de. Ah oui, non, il se fait coincer le bras dans la porte.
Alors, il doit y avoir Sami Zayn qui sort.
Sami Zayn qui se fait d'abord. Ouais, Sami Zayn se.
Se fait éliminer sur
un stunner, hein, je crois.
Ouais, stunner.
C'est ça, hein. Ou je dis des bêtises.
Peut-être. Oula, on n'est pas bon, on n'a pas bien préparé. Mais oui, Sami Zayn s'en va.
Ouais, Sami Zayn se prend un stunner, il se fait éliminer par Kevin Owens. Kevin Owens va suivre un petit peu Sami Zayn dehors. Et il se fait coincer le bras dans la porte d'entrée de la cage, qui était ouverte pour laisser passer Zayn. Hein. Jey Uso va en profiter pour lui asséner aux 5 ou 6 super kicks, je pense, dans la face.
Oui, au moins, oui.
C'est ça, hein. Et après le faire rentrer dans le ring, il va continuer à s'acharner sur lui jusqu'à réussir à placer son splash. Et Kevin Owens ne se relèvera pas. Alors après, comment que ça se danse? Ben, y a Cesaro, je crois, qui finit par se faire éliminer.
Mm.
Et on termine par Jey Uso contre Daniel Bryan. Et Daniel Bryan va mettre son super coup de genou dans la face de Jey Uso.
Encore une fois, mal filmé, mais bon.
Mal filmé, ouais. Ouais, pas terrible, ils n'arrivent pas trop à le filmer, ce truc-là. J'essaie de réfléchir comment... parce que Cesaro, il se fait éliminer un peu facilement quand même. Hein.
Je crois qu'il sort sur un splash aussi, hein, Jey Uso. Un
splash aussi de Jey Uso. Hein.
Mm.
Donc, c'est bien Daniel Bryan qui gagne le match. Hein. Il est à bout de force. Hein. Et c'est là que débarque Roman Reigns. Roman Reigns, lui, ben, il est au top de sa forme. Donc le match va pas durer longtemps hein, parce que c'est tout de suite le match pour le championnat universel. Daniel Bryan, il va contrer quand même Roman Reigns qui se jette sur lui pour un spear. Il va lui choper le bras et le placer en yes lock. Mais Roman Reigns va réussir à s'en sortir et il va commencer à le tabasser à coups de coude, à coups de poing. Et après, il va placer sa guillotine. Le pauvre Daniel Bryan ne s'en sortira pas. Roman Reigns est triomphant. Daniel Bryan a gagné, mais ça sert à rien. Et finalement, la surprise de la soirée, Edge qui vient placer un spear out of nowhere sur Roman Reigns. Il le surplombe, hein, et il pointe du doigt le signe de WrestleMania. On aura compris que Edge a choisi Roman Reigns, il a fait son choix pour WrestleMania, et il met les points sur les i, là, hein, et avec ce gros spear, là. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon Raph?
Bah, plein de choses, hein, parce qu'en Elimination Chamber, mine de rien, il se passe plein de choses.
C'est ça.
Alors, déjà, j'étais naïf, je n'avais pas prévu le coup, on va parler plus tard de ce qui s'est passé. Très, très étonné de commencer par ça, parce que je me dis, pour moi, c'était le main event, en fait, ça allait être... c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit, Roman Reigns, c'est lui qui fait le main event, et là, il fait le deuxième match de la soirée.
C'est
pas très cohérent. Et très, très étonné, alors je me suis même dit, tiens, et s'il faisait ce match-là en opener, mais le match contre Roman Reigns plus tard, genre en main event, pour donner un peu plus de chance au vainqueur de l'Elimination Chamber, mais ça collait pas trop à la gimmick de Reigns qui est censé être le patron du show et tout, donc finalement ils ont fait ce qui était le plus logique en termes de scénario, c'est-à-dire enchaîner les deux matchs. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne cage, une bonne chance. Corbin a eu la grande politesse de sortir assez vite après avoir fait quelques big moves, et là on a eu un très beau carré puisqu'il sort avant que Jey Uso rentre de mémoire. Donc effectivement là on a Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Daniel Bryan sur le ring. Five stars. On a eu de très beaux échanges. On a eu quand même un Cesaro très très en vue, j'ai trouvé, mais qui sort comme au Rumble un petit peu petitement. On a eu un Kevin Owens très très en vue et qui pour le coup sort de la manière la plus impressionnante. Je trouve cette élimination la plus forte en émotion, parce que ouais, Jey Uso là, quand il lui coince le bras et qu'il lui fait super kick, super kick, super kick, et le Kevin Owens qui a bout de force, ça c'était très beau. Et au final on a un vainqueur un peu pas terrible, hein. Moi Daniel Bryan m'a pas beaucoup impressionné dans cette cage, et surtout on en avait discuté lors de l'analyse de SmackDown, pour moi il nous préparait un truc, la WWE, quoi. C'était pas possible. Le mec, il gagne un title shot après une Elimination Chamber et il a le match direct. C'est évident, il va se faire défoncer. Je dis, il va y avoir quelque chose. Il a aucune chance. Il va y avoir un retour surprise. Il va y avoir un. Eh ben non. Donc en fait, il s'est passé exactement ce à quoi on s'attendait. Le gagnant gagne. Il est tout fatigué. Roman Reigns arrive. Il lui fout 2-3 pains. Il lui fout la guillotine et il gagne. Bon, et après, alors pour sauver un peu le segment, on a Edge qui choisit Roman Reigns, mais là aussi, j'avais plus trop de suspense hein, sur ces dernières semaines. Donc, je trouve que la qualité in-ring a été largement là, mais pour au final déboucher sur quoi ? Bah, pas grand-chose, je trouve. Alors, j'espère que Cesaro va rester bien en vue les prochaines semaines, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Kevin Owens, je sais pas trop sur quoi il peut enchaîner parce que là ça va être un peu compliqué. Bryan, first contender pendant 3 minutes. Ouais. Et puis finalement, de toute façon, on sait que ça sera Edge le prochain adversaire de Roman Reigns. Donc tous ces mecs-là, ils vont être hors de la title picture pendant un moment. Assez étonné, mais pas forcément bien. Un peu surpris, déçu par cette absence finale. Surpris par l'absence de surprise au final. Bon, le match m'a bien plu. Sami Zayn aussi a été très bon, j'ai trouvé. Donc, tout le monde s'est catché, tout le monde a bien catché. Mais bon, au final, est-ce qu'on s'en souviendra beaucoup de tout ça ? Je sais pas. Je suis pas sûr.
Ouais, c'est quand même, ça reste quand même une déception. Alors, le match en lui-même est effectivement, comme tu dis, vachement bien. Je peux reparler par exemple de Sami Zayn qui essaye de faire une alliance avec Kevin Owens quand Kevin Owens rentre dans le truc. Et puis évidemment Kevin Owens lui fait croire avant de se retourner contre lui et de l'exploser contre un des pods, une des cages. C'était excellemment joué par Sami Zayn. En plus il était vraiment très bon Sami Zayn dans son personnage de petit connard là. Il y a aussi un beau spot avec Cesaro qui poursuit Sami Zayn au niveau de la, alors en haut de la grille, et puis il va finir par s'accrocher au toit de la grille et donner deux gros coups de pied à Sami Zayn qui va aller s'écraser au sol, et puis après il va faire un petit peu des pompes comme ça, des tractions en haut de la cage. C'était assez impressionnant. Ça a bien mis en valeur ce bon vieux Cesaro.
Il y a une série de cannonballs là de Kevin Owens aussi.
Ouais. Non, mais tout le match, on peut dire que tout le match est impressionnant avec quelques pics comme ça, avec ces gros spots. Non, ils ont fait du bon boulot. Effectivement, l'élimination aussi de Kevin Owens, c'était assez impressionnante. Par contre, effectivement, Cesaro, il part un peu comme si de rien n'était, quoi. C'est Super Kick et Frog Splash, en fait, hein, qui se passe de Jey Uso.
Ouais.
Jey Uso qui élimine quand même deux personnes. Par contre, derrière, c'est Roman Reigns qui débarque. Et à la limite, c'était plus un Buried Alive match qu'un Elimination Chamber, hein, parce qu'il a enterré tout le monde, au final.
Ouais.
Tout ce beau travail, finalement, juste pour mettre over Edge. Le but, finalement, c'est de monter le match Edge-Roman Reigns. C'est quand même assez triste, hein, moi, je trouve. De pauvre Daniel Bryan, ça sert à rien, ce title shot.
Ouais,
Cesaro, au final, il passe quand même pour un con. Kevin Owens, pas loin non plus. Pareil pour Jey Uso, qui finalement n'arrive pas à transformer l'essai. Hein. Il en élimine deux, et puis ça sert à rien. Le roi Corbin, on n'en parle même pas. Il n'y a guère que Sami Zayn qui s'en sort à peu près correctement, finalement. C'est d'une tristesse.
Bah, c'est triste parce que, vu ce que ça a donné, en fait, je trouve qu'on aurait au moins donné la victoire dans la chambre à Cesaro, et puis qu'il se soit fait démolir ensuite, bah, ça aurait confirmé ce push, parce que ça aurait joué encore plus le côté underdog. Là, Daniel Bryan, mais encore une fois, hein, moi, j'ai un vrai problème avec Daniel Bryan depuis quelques mois, et pareil au Rumble, je trouve qu'il est bien en vue, mais il est toujours sur la marche un peu en dessous du main event et du championship, mais on dirait que ça lui sert à rien, en fait. Cesaro, qui a jamais eu un tel push, ça aurait nourri un peu sa carrière. Là, Bryan, lui, Bryan, il pourra jamais faire plus fort que WrestleMania 30, donc tout ce qu'il fait, c'est un peu en dessous. Et puis là, moi, j'ai pas eu pitié pour Bryan, j'ai pas été triste, j'ai pas été déçu pour lui, j'ai pas pris fait et cause pour lui quand Roman Reigns est arrivé, alors que si ça avait été Cesaro, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de fire, ou même Kevin Owens. Il y a aucun passif avec Daniel Bryan ces dernières semaines, parce qu'au final, il gagne une chambre, et je pense que c'est son deuxième Elimination Chamber qu'il remporte dans sa carrière, voire troisième, non deuxième, je pense. Ça commence à faire pas mal pour un CV, mais ça fait pchit, quoi.
On sent qu'il a pas, il a pas le désir de devenir champion.
Bah ouais.
En fait, Daniel Bryan. C'est ce que je lui reproche depuis un bon moment, c'est que lui, il a pas envie d'être le top guy, il a pas envie d'être au sommet.
Non, il veut jobber pour les autres.
Il veut jobber pour les autres. Tu veux mettre les autres en valeur. Alors c'est très bien, mais alors par contre, du coup, fallait pas lui donner la chambre. Hein. Fallait la donner à Cesaro.
Ben, c'est bien et ça marche moyen parce que c'est vrai que Bryan, ces dernières années, moi je retiens qu'il a jobé pour Mustafa Ali, pour Murphy. Bon, ça n'a pas trop marché quoi. Pour Eric Rowan même.
ouais.
Cette tentative de builder les copains, même un peu Otis là ou Drew Gulak. Bon, ben ok. Tous ces mecs-là ont battu Bryan, clean.
Et au final, mais si derrière ils ont rien.
Ben non.
C'est pas. Ouais, il faudrait qu'il y ait une ceinture autour du truc. Il faudrait qu'il soit soit champion intercontinental, soit. Enfin, en l'état, ça fonctionne pas, clairement. Ouais. Et là, c'est la dernière étape un peu de ce booking qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, on part. Voilà, tout ça pour qu'on parte sur Edge contre Roman Reigns. Quoi.
Ce qui était de plus en plus prévisible et qui, en plus, voilà, nous spoil d'avance que tous ces mecs-là, aussi méritants qu'ils soient, ça sera pas. Ça sera pas title shot et ça sera pas main event à SmackDown pour les deux prochains mois.
Ouais, voilà. Clairement. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est Roman Reigns qui, visiblement, ça le dérange pas de pas trop catcher pendant les pay-per-view, quoi.
En tout cas, oui.
Y a quand même quelques pay-per-view où il fait pas grand-chose. Quand il vient prendre le titre pour son grand retour, il met des coups de chaise. Il y a d'autres matchs où je sais plus, il faisait pas grand-chose, mais. Bien donné sur les derniers quand même. Mais,
ouais, contre Kevin Owens et contre Jey Uso, il a fait le taf, mais il fait des matchs à l'émotion. Mm. Et voilà. Et là, il s'est pas foulé, oui, c'est sûr. Après, c'était la stipu, mais quand même.
Ouais, bon, ça faisait partie du scénario, on va dire.
Ouais.
Voilà, il y avait au moins un scénario pour Roman Reigns. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc une déception hein, quand même.
Mm.
La suite. On va un peu dans les vestiaires. Il y a Sonya Deville qui discute avec Bad Bunny. Il y a le Miz qui débarque. Alors, faut savoir que Bad Bunny, le chanteur de rap, hein, qui apparemment vend des millions de disques, ou du moins qui est le plus écouté, etc., etc., l'homme en vue en ce moment dans le showbiz, et le champion 24/7 de la WWE, parce qu'il a joué un petit tour à Akira Tozawa. Donc, il y a le Miz qui débarque, qui demande voilà, à Bad Bunny. Alors, il lui dit qu'il l'a vu au Saturday Night Live, hein, l'émission comique américaine. Est-ce qu'il a été chanté au Saturday Night Live, ce qui est une consécration pour un artiste, hein, aux États-Unis. Et il avait son titre 24/7 quand il chantait. Donc ça, le Miz l'a bien vu, mais surtout, il demande « Qu'est-ce que tu fais là, en fait, Bad Bunny ?» Et Bad Bunny le regarde et lui dit bah, « Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Parce que moi, je suis le champion de 24/7, et toi, sous-entendu, t'es pas champion. » Et le Miz, il s'énerve un peu, mais Bad Bunny lui met une grande claque dans la gueule. Alors là, le Miz, il est vénère, il est tout rouge. Il se retourne pour frapper Bad Bunny, mais il se retrouve nez à nez avec Damien Priest. Et il est obligé de battre en retraite.
Ouais.
Voilà, petit segment dans les coulisses. Moi, je trouve que Bad Bunny, il tient bien son rôle. Hein.
Parce que Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne connais pas spécialement ce monsieur, mais le fait est qu'il est très connu. Je pense qu'il fait du bien au niveau américain et international à la WWE pour leur image mainstream. Ils jouent le rôle. En plus, ils ont trouvé ça, c'est le titre 24-7, c'est formidable, hein, c'est-à-dire n'importe qui peut l'être. Je préfère ça à Gronkowski, la machin. Et ma foi, s'il est là encore un peu dans les coulisses ces prochaines semaines, pourquoi pas. En plus, ils ont effectivement cette figure du Miz qui est vachement le catcheur le plus... c'est-à-dire mainstream, mais le catcheur le plus show business de tous qui joue bien le rôle, qui se confronte à lui. Donc ça me paraît totalement légitime. Là, je suis pas choqué, ça me dérange pas.
Ouais, ça aurait été un bon segment à Raw. C'est un peu bizarre de voir ça dans un pay-per-view, mais non, moi je voilà, il joue bien sa partition. J'espère par contre qu'on n'aura pas. Moi, j'en parlerai plus tard. Alors,
je crois savoir.
Voilà. Passons au triple frit. La triple frit, hein, quand on parle français. Pour le titre US, donc Riddle contre Bobby Lashley, le champion qui défend son titre, et John Morrison, l'invité surprise. Un match, hein, triple frit, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une petite, des petits déroulés de Morrison, des petits déroulés de Riddle. Lashley qui est quand même salement dominateur. Il explose un petit peu tout le monde. À tel point que Morrison, après lui avoir passé le Starship Pain, sur lequel Lashley s'est relevé, alors que même que Lashley s'était pris un saut de la mort là, de Riddle là, juste avant, Morrison, il ne sait plus trop quoi faire. Alors, il y a même VP qui se fout de sa gueule. Il dit, mais tu croyais vraiment que tu allais le battre avec ton Starship Pain, là, mon pauvre. MVP il a une béquille parce qu'il s'est blessé au genou à Monday Night Raw. Alors Morrison il prend la béquille de MVP pour aller frapper Lashley parce que c'est comme c'est une triple threat, il n'y a pas de disqualification en fait. Donc il va pour frapper Lashley, mais Lashley le chope et le bloque dans son Earthlock. Mais alors là il y a Riddle qui vient, qui prend la béquille et qui frappe dans le dos Lashley. Et qui va lui placer un de ses finishers, le Bro Derek, on appelle ça. Et ça va permettre à Riddle de gagner le match. 1, 2, 3, nouveau champion. Bobby Lashley, le monstre, a perdu le titre. Et c'est bien Riddle qui est champion. Donc nous, on avait donné Lashley, je pense.
Hein, oui, mais ouais, on n'avait pas la même carte.
Voilà, on n'avait pas la même marque, donc ça compte pas, hein, donc on a quand même réussi le prono. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Si on est précis de mémoire, c'est bien Morrison hein, qui prend le pin, je crois. Et je crois que Lashley, il est à l'extérieur du ring après avoir pris le coup de béquille.
Ouais, parce que je me disais, c'est bizarre qu'il se relève pas, Lashley. Effectivement, il va lui mettre son coup de béquille. Lashley va partir à l'extérieur du ring parce qu'il a vraiment mal au dos.
Ouais, c'est ça.
Et Riddle va capitaliser en prenant Morrison qui était KO du fait du Earthlock et lui placer son Bro Derek, quel nom nul pour une prise.
Ouais,
allez-y.
Écoute. Tu l'as dit, hein, Triple Threat très classique, dont je me relèverai pas la nuit. Il y a eu des séquences d'alliance entre les deux plus petits, évidemment. Mais Lashley est quand même monstrueux. Je suis même inquiet, hein, putain, parce qu'il a, il a des veines qui ressortent là, sur la joue, sur le front, sur le torse. Je sais pas s'il va pas un peu trop fort sur les stéroïdes, s'il va pas avoir le sang un peu trop épais. Mais sinon, monstrueux Lashley. Et bah, pour ma part, déception, là encore, même si on l'avait dit et on l'avait un peu pronostiqué sans oser valider le pronostic en analyse, c'est que Lashley, il a très très envie d'aller croquer le titre mondial, il l'a déjà dit et tout. Donc qu'il l'ait perdu, de suite, je me suis dit oui, il y a une cohérence, il va se passer des choses pour Bobby Lashley, c'est sûr, dans les mois à venir. Mais bah, comme ça, ça me déçoit un peu. Alors bon, et pas leur faute si Kifli est encore malade, un peu chier. Je veux même dire, j'arrive à se glisser et à voler le titre plutôt que Riddle. Bon, ils ont visiblement, ils y croient en Riddle. Il doit être populaire, il doit plaire, je sais pas, il doit vendre des produits dérivés. Mais moi, il n'arrive pas à m'enthousiasmer, donc je suis un peu déçu. Je suis toujours déçu qu'un petit rookie gagne assez vite un titre intermédiaire, parce que souvent ça lui sert pas, hein, mémoire Ricochet, champion US pendant deux semaines. Il y en a eu plein d'autres, hein, des mecs qui sont montés de NXT, qui ont fait trois mois, qui ont récupéré un titre.
Ouais, Bobby Roode, ouais, Apollo. Voilà. Enfin, Apollo, ouais. Il a peut-être une plus de temps, mais ça lui a pas servi non plus.
Ouais, ben Andrade, justement.
Andrade, ouais. Voilà. Effectivement, le titre US, c'est un peu le titre des rookies, mais ouais. Des rookies qui finissent à main event. Ou...
C'est un peu
ça. Remercier.
Donc je suis pas très heureux. Et en plus, le match, c'était pas extraordinaire. Mais bon, il y a des circonstances atténuantes. Et puis bon, c'est clairement la mid-card, voire la low-card de ce pay-per-view. Mais Lashley reste un monstre. Il n'y a pas d'autre mot.
Ouais, Lashley, toujours très impressionnant. Pas beaucoup d'harmonie dans le catch entre, je trouve, Riddle et Morrison, par exemple. Pas d'alchimie, comme on dit.
Bah même Riddle et Lashley, hein. Ça fait 4 ou 5 matchs qu'ils s'affrontent et il ne s'est jamais rien passé de bon. Hein.
Je ne suis vraiment pas convaincu par Riddle. Hein. Surtout que je trouve qu'il est dans les mauvais push de la WWE, là où il perd tout le temps en weekly. Ouais. Il gagne le titre, effectivement, là, sur un concours de circonstances, en trichant en plus. Alors c'est censé être un babyface. Le reste du temps, il abandonne. Et là, il gagne en trichant. Bon, voilà, c'est vraiment les bookings mal montés que j'aime pas à la WWE qui mènent à rien, généralement, puisque personne ne peut se ranger derrière Riddle s'il a un comportement comme ça, quoi. S'il perd et s'il triche. On aurait effectivement... Morrison, ça aurait été plus sympa, finalement. T'as raison. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une grosse déception aussi, ce match-là.
Ouais. Moi, j'aimais bien les Hardy Bros, là, qu'ils n'ont pas fait durer, mais quand il était en tag team avec Jeff Hardy, avec toute une histoire de... C'était son idole de jeunesse, ça pouvait se tenir, ça aurait pu faire une petite tag team quelques mois,
exactement.
Mais bon, ça n'a pas... Non. Il voulait en solo.
Ou alors qu'il le monte comme il monte maintenant Lashley, comme un mec... Un peu indestructible entre guillemets, parce que c'est quand même là maintenant on n'y croit plus, mais à la base c'est quand même un mec qui vient de l'UFC, qui vient du mixed martial art, qui est censé être legit dans le ring. Quand il était dans le circuit indie, il était plutôt heel et c'était plutôt un mec arrogant et puis qui sortait des grosses prestations qu'il avait un catch assez stiff et technique. Là, je trouve ça, à la WWE, ça s'adapte pas à son style si tu veux le faire passer pour un catcheur lambda, quoi. Il faut en faire une attraction, quoi, un petit peu de Riddle. Il faut qu'il vienne. Il aurait fallu. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, ça va être comme n'importe qui dans le roster, comme un Nakamura, comme un Aleister Black ou des trucs comme ça. C'est pour moi, c'est vraiment très mal engagé avec lui. Je pense pas qu'il se passera grand chose. Je pense pas qu'il intéresse plus que ça le public.
Non,
on peut pas savoir parce qu'on n'a pas. Voilà, et en plus il récite son texte bêtement. On sent qu'il est de toute façon sur la sellette parce qu'il a des pailles au cul, que ce soit au niveau MeToo, que ce soit au niveau drogue, etc. C'est pas le plus clean du business, donc effectivement faut qu'il marche droit, donc faut qu'il écoute les patrons, donc c'est pas lui qui va apporter des idées, qui va remettre en question le booking. Et du coup, on se retrouve avec encore une fois un personnage fade qui a pas vraiment de personnalité à part d'être un crétin. Et qui a un babyface qui triche et qui abandonne, quoi. Donc c'est zéro pointé, ce push de Riddle. Et il faut bien que Lashley perde le titre, mais ça ne sera même pas dérangé de voir Lashley aller affronter Drew McIntyre en étant toujours champion US, quoi.
Bah, c'est ce qu'il avait déjà fait, hein.
C'est ça, hein, oui, ils sont déjà affrontés en plus. Ouais. Il a été mal booké pendant longtemps aussi, Lashley, donc.
Oui.
On s'en sort bien maintenant, c'est inespéré le Lashley qu'on a à l'heure actuelle. Mais...
Ah, ça c'est sûr. Non, mais c'est ça qui est beau avec la WWE, c'est des fois les mecs, même pour Riddle, hein, peut-être que dans un an ou deux, ils ont trouvé la flamme.
Une fois qu'ils vont le faire tourner heel, et puis d'un seul coup, il sera super cool. Mais en attendant, encore une fois, un babyface où on passe à côté, quoi.
Ouais, un peu.
Voilà, je suis un peu énervé, je vais reprendre mon calme.
Allez, bois une petite gorgée de bière comme je fais, et puis passons chez les filles, non, c'est ça, ça va nous adoucir.
Un petit peu de douceur. Nia Jax, Shayna Baszler, les championnes tag team, affrontent Sasha Banks et Bianca Belair, l'alliance de fortune entre Sasha Banks, la championne de SmackDown, et Bianca Belair qui a gagné le Royal Rumble, mais qui n'a pas encore décidé qui c'est qu'elle va affronter. C'est un peu comme Edge. Il y a un match qui s'ensuit. Rien de spécial pendant le match, mais il y a Reginald, le sommelier de Carmella, qui est toujours obnubilé par il fait une fixation sur Sasha Banks,
ouais.
Hein, puisque même dans les vestiaires, enfin, il y a une interview backstage hein, de Sasha et Bianca avant le match où Reginald vient et il dit à quel point Sasha Banks est magnifique, etc., etc. Et il va venir pendant le match avec une bouteille, hein, parce qu'il a dit « je vais ramener mon meilleur vin pour vous » et tout ça. Bouteille de champagne et des flûtes. C'est pas le moment où Sasha a l'avantage, mais elle réussit à se défaire de Nia Jax à un moment donné. Et là, Reginald, il lui donne la bouteille, il lui dit « vas-y, frappe-la avec la bouteille », etc. Sasha, elle est pas vraiment pour, elle est un peu perplexe. Mais elle a la bouteille dans la main, l'arbitre se retourne, il dit « oh, qu'est-ce que tu fais avec la bouteille ?» Il lui arrache la bouteille des mains, elle essaye de s'expliquer. Mais ça, c'est pas très malin, surtout quand t'es en plein match et que t'affrontes Nia Jax. Nia Jax l'attrape, lui met un Samoan Drop et c'en est fini de désespérance de cette tag team de fortune. Bianca Belair, elle a été neutralisée entre-temps par Shayna Baszler, qui était assez costaud dans le match aussi de son côté. Samoan Drop, 1-2-3, Sasha Banks est vaincue. Victoire des méchantes et Reginald qui va devoir s'excuser hein, à un moment donné parce qu'il a un petit peu foutu la merde. Hein. Un petit match je dirais qui est plutôt digne d'un weekly que d'un pay-per-view. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Bah oui, totalement, c'est même assez surprenant. Alors déjà, l'affiche était un peu tombée comme ça du camion. J'ai envie de dire que c'était l'avantage, c'est un match dont on n'attendait rien, mais on n'a pas été déçus puisqu'il s'est rien passé, c'est-à-dire que Bianca Belair a beau dire peut-être qu'on verra bientôt, je vais dire qui je vais choisir, mais là ça a pas du tout fait avancer leur histoire. Alors moi je pense qu'elle va, enfin j'allais dire je suis quasiment sûr qu'elle va choisir Sasha Banks. Maintenant si les plans changent un row, ça va peut-être redistribuer un peu les cartes, mais je sais pas trop ce qui se trame avec Reginald. Autant je le trouvais rigolo à SmackDown, autant je trouve que c'est hyper répétitif ces personnages de non-catcheurs. C'est un peu comme Billy Kay, c'est un peu comme a été James Ellsworth avant. C'est le mec ou la fille, elle vient pour aider et puis finalement, elle fait perdre. On l'a vu mille fois. Ça a pas donné un grand match. En plus, ça se bien que elle est en pleine forme, elle est au milieu du ring et tout. Elle prend juste un Samoan Drop et elle perd. C'est assez étonnant.
Ouais, c'est quand même la championne de SmackDown. Hein.
Bah, ouais.
C'est quand même Sasha Banks.
Elle a envoyé des gros matchs contre Bayley, contre tout ça. Là, elle perd un peu connement. Non, je vois pas trop. J'ai vraiment l'impression que c'est le truc d'un soir. On avait dit un match comme ça. Voilà, au moins pour les championnes, elles ont un peu plus de corps à leur tableau de chasse. Voilà, elles ont battu Bianca Belair. Il dit, ok, elles deviennent encore plus des championnes crédibles et légitimes. Le son, enfin, je trouve qu'en tag team, Nia Jax et Shayna Baszler, c'était une bonne équipe. Mais sinon, vraiment, quand même très pauvre au niveau du catch. Et puis, bah, au niveau du scénario, assez poussif. Hein. Déception aussi.
Ouais, ça, ce genre de match, ça dérange pas quand t'as une carte avec plein de matchs.
Ouais.
Mais là, il y en a quatre, là, des matchs. Donc, c'est un peu. C'est encore une fois une déception. Enfin, une déception. On n'en entendait rien du match. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faisait là. J'ai pas beaucoup parlé de Shayna Baszler, mais c'était celle qui était la plus impressionnante dans le match. Bianca Belair, qui a quand même gagné le Rumble, elle a quasiment rien fait. Du moins, j'ai aucun souvenir de. Un peu au début de match, peut-être.
Ouais, non.
Et tout ça pour mettre over Reginald, quoi. Encore une fois. On aime beaucoup Reginald, mais. En weekly, pas en pay-per-view, il faut le garder pour les weekly, Reginald. C'est une petite distraction pendant les shows de la semaine qui sont parfois un peu longuées.
C'est ça.
Mais tu ne fais pas tout un match juste pour mettre over Reginald. Ça, c'est... Surtout dans un pay-per-view comme ça où tu n'as pas beaucoup de matchs. Hein. Donc c'est encore une fois zéro, moi, je trouve. Encore une fois une déception, même si bon, c'est pas mauvais ce qu'elles font dans le ring. Hein. Mais là, il y a un petit problème de scénarisation, quoi.
Ouais, et pour préciser et enfoncer le clou sur l'étrangeté de cette carte, c'est le seul match féminin, donc les ceintures de Raw et de SmackDown individuelles ne sont pas défendues, et c'est aussi le seul match tag team. Hein, les champions, donc les Dirty Dogs ou les Hurt Business, sont restés à la maison. Donc voilà.
Ouais, très limité. Je vais essayer de retrouver les timings des matchs parce que ça a quand même duré 2h30, je crois.
Ouais.
Bon, j'essaierai de chercher ça après parce que sinon, on va pas s'en sortir. Parce que c'est déjà le main event, hein.
Eh ouais, main event, baby.
Alors, avant, on a une petite séquence backstage où le Miz est en train de discuter avec MVP.
Mm-hmm.
Il se trame quelque chose. Alors, l'Elimination Chamber, c'est AJ Styles contre Kofi Kingston, contre Randy Orton, contre Jeff Hardy, contre Sheamus, contre le champion Drew McIntyre. Donc là, le champion de Raw, lui, il participe à l'Elimination Chamber, il doit défendre son titre. Hein.
Ouais, beau plateau quand même.
Beau plateau que des anciens champions, tout simplement. AJ Styles vient avec son acolyte Omos, hein, le géant de 3 mètres. C'est Randy Orton et Jeff Hardy qui débute le match. Ce qui m'a fait rire, c'est Randy Orton qui vient, qui fait le tour des pods, des cages. Et quand il vient à AJ Styles, il dit « Oh, il y a le mec effrayant qui arrive, oulala !» Et Randy Orton lui fait un geste de style « Ah, laisse tomber avec AJ, ça sert à rien. » Ça me fait marrer. Il y a aussi Kofi Kingston qui arrête pas de parler, hein. Parce que ça dure des plombes, hein, quand même, parce qu'il y a les entrées de tout le monde.
Et oui, ils se regardent tous.
Ils se regardent tous, voilà, il faut faire un petit sketch devant la cage quand on arrive, mais Kofi Kingston, lui, n'arrête pas de parler, hein, il raconte n'importe quoi. Sans compter les vidéos aussi, de résumé, il y en a même une pendant les entrées, je crois, sur le premier match.
C'est possible.
Ça fait beaucoup de remplissage, mais les vidéos sont bien faites, hein, encore une fois. Les packages. Bon, Randy Orton et Jeff Hardy se foutent sur la gueule. Au bout d'un moment, c'est Drew McIntyre qui rentre dans le ring.
Ouais. Très tôt.
Ouais, très tôt, bah oui, le champion, il n'y a pas de raison. Donc ça continue à se battre. Ensuite, il y a Kofi Kingston qui rentre dans le ring. Et il va éliminer Randy Orton.
Et ouais.
Alors je sais pas s'il lui fait un petit paquet ou si c'est le SOS, mais
oui, c'est un truc un peu bizarrement ouais. Exécuté.
C'est un roll-up surprise.
Ouais.
Bah Orton est pas content, donc il fait des RKO à tout le monde.
Ouais.
Sur Hardy, sur Kingston, McIntyre était hors jeu déjà après un gros spot. Et alors il y a tout le monde qui est KO, donc là AJ Styles, son cerveau ne fait qu'un tour. Il se dit tiens, je vais en profiter pour faire le tomber sur tout le monde, donc il y a mais c'est pas encore son heure de sortir.
Et non.
Donc il y a Omos qui arrache le plexiglas de la cage et AJ Styles fait le tour et il va rentrer dans la cage. en profitant que Orton s'en sorte. Et bah, il va essayer de faire le tomber, mais ça sert à rien. Alors cette conclusion, on y arrive quand même après, parce que sur l'instant, enfin je sais pas ce que t'en as pensé, mais quand Homo s'arrache le truc, tu te dis pourquoi il fait ça, ça sert à quoi, quoi.
Oui, c'est un peu compliqué.
Hein, c'est pas évident, hein, ce truc-là.
Surtout qu'il aurait pu ouvrir une des portes latérales et faire entrer AJ Styles directement dans la cage, mais non, là, donc il a ouvert le plexi extérieur, hein, si vous n'avez pas vu la scène. Et du coup, AJ Styles a dû faire, comme tu l'as dit, le tour par l'extérieur, profiter du fait que la porte s'ouvre pour laisser sortir Orton, rentrer. Et oui, donc du coup, il tente d'être tombé, mais ça y est, les mecs se sont déjà un peu remis du RKO, donc ça fait simplement deux.
Ouais, alors on se dit, là, peut-être, pourquoi il n'est pas resté dans sa cage à attendre que ça se passe, quoi. Histoire de rentrer un peu plus frais, quoi. Mais bon, il faut se souvenir que Sheamus avait été désigné comme le dernier entrant. Donc il ne restait plus que Sheamus. Donc c'était de toute façon Sheamus qui finirait par sortir en dernier après AJ Styles. Quelque part, ça avait un sens. Mais ce n'était pas évident comme ça. C'était un peu dérangeant à la vision. Sheamus donc finit par rentrer aussi. Et bah, c'est parti pour la baston générale. Donc, bah, ça, alors, il y a plein de gros spots, hein, ça va se battre en haut des cages, etc. C'est aussi un match très impressionnant. Alors, les éliminations, comment que ça se passe? Je pense que c'est peut-être Kofi Kingston qui a été éliminé en premier par Sheamus, qui lui a mis un broke kick.
Oui, on a un gros broke kick, oui.
C'est ça. Après, Jeff Hardy qui fait des twist of fate à tout le monde. Swanton Bond sur Styles. Mais il va se prendre un Claymore par McIntyre et il se fait éliminer.
C'est ça.
Est-ce qu'il a éliminé Jay Styles, Hardy? Avec ça, on ne tombe pas encore. Hein. Non, il reste à la fin, il reste Sheamus, McIntyre et Styles. Sheamus il va se faire éliminer par McIntyre.
Et il reste par Styles.
Par Styles. Non.
Et oui, souviens-toi, grosse séquence où Sheamus place un broke kick à Drew McIntyre. Là, on se dit, on va changer de champion. AJ Styles, phénoménal forearm, et il sort Sheamus.
Ouais, pas très malin sur ce coup-là, AJ Styles. Phénoménal forearm, le tombé, 1, 2, 3, Sheamus éliminé, et dans la foulée, McIntyre va placer un broke kick sur... ou alors, c'est un peu plus tard, ils vont
se... Un Claymore,
Claymore kick sur... sur AJ Styles qui tentait un phénoménal fora.
Ouais, celui-là, il était beau. Hein.
Ouais, très impressionnant.
Claymore à mi-hauteur, là. Enfin, en hauteur.
Ouais. Très beau finish. Et c'est donc McIntyre qui remporte la chambre d'élimination, le champion qui conserve son titre.
On avait le prono.
On avait le prono. Ça, on l'avait juste. Pour le premier, on avait parié sur Cesaro, je crois, nous.
Oui.
Hein, bon, c'est Daniel Bryan, ils ont fait le mauvais choix, quoi. Donc McIntyre il est content, il savoure sa victoire. Bon, il est bien séché, hein, parce que c'était quand même un match très costaud. Et là-dessus, il y a Bobby Lashley qui débarque et qui le défonce. Toujours pas accepté sa défaite de l'US et il se venge sur le champion. Donc Spear, gros slam et tout, et il explose, tape la tête contre la table des commentateurs. Et à la surprise générale, c'est la musique du Miz qui retentit. Bobby Lashley laisse la place au Miz, qui vient avec sa mallette Money in the Bank. Il cache la mallette. Le match démarre contre Drew McIntyre, qui va réussir à se relever d'un DDT, mais qui ne pourra pas se relever du Skull Crushing Finale.
Et oui.
Et c'est un nouveau champion. Le Miz est champion. Le Miz a réussi le cache de la mallette. Il est de retour au top. Et c'est la fin du règne de McIntyre. Le champion du peuple, le bel homme.
Le deuxième règne, ouais.
Le deuxième règne de McIntyre se termine ici. L'impitoyable mallette du Miz. Mm. La victoire de Miz, simplement. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Eh ben, écoute, j'ai envie de dire que cette fin de show a sauvé le show. Je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Papy nous a laissé son avis en commentaire, Papy qui est en vacances, on lui fait un petit coucou, hein, il disait que le pay-per-view a été resté longtemps trop sage, mais jusqu'à la fin qui l'a fait lever de son siège. Je partage assez ce point de vue, c'est-à-dire que la chambre a été assez inattendue et Et je trouve que inattendu, contrairement à celle de SmackDown, inattendu dans le bon sens du terme. Moi, j'avais une très grosse peur. Je suis un peu obsessionnel, mais ça fait trois mois que j'ai peur de la gimmick du Fiend qui overbook les shows. Donc j'avais très peur au Royal Rumble que Alexa Bliss nous fasse une Alexa Bliss possédée là qui gagne le Rumble féminin. Elle l'a pas fait. Donc j'étais très content. Et là, vu qu'on avait déjà eu, souvenez-vous de sinistre mémoire, un Bray Wyatt qui était apparu comme par magie dans un Hell in a Cell match entre Dean Ambrose et Seth Rollins il y a quelques années, j'avais hyper peur de le Fiend qui, voilà, la lumière s'éteint et on se rallume et puis hop, il y a le Fiend, oh là là, mais mon Dieu, comment il est rentré, il est dans l'Elimination Chamber. Donc pas du tout, et bah, justement, Papy donnait son flop à Orton qui a été en mode feignasse, et bien moi je suis très content. Orton qui a fait une très grosse année 2020 où il a défoncé la gueule à tout le monde et tout, il a même pris le titre à McIntyre, il a foutu le feu donc à Bray Wyatt, et ben là il prend un tombé de Kofi Kingston, il met sa série de RKO, il sort en premier, ça a réveillé le moi ça m'a énormément surpris en fait, Randy Orton qui sort en premier comme ça sur un petit paquet bizarre, je me suis dit tiens, c'est ça, on s'y attendait pas. Et en plus, bah, Orton, niveau catch, un bon catcheur, mais bon, c'est un, on va dire un peu comme Corbin au premier match. Hein, c'est pas mécontent qu'il sorte non plus, parce que derrière, c'est vrai qu'on a eu un gros segment. Très, très mitigé, par contre, sur cette entrée d'Edge Styles un peu bizarre. Pour moi, l'arbitre, il aurait dû lui dire retourne dans ton pod, attends ton timing. Hein, il aurait pas dû valider sa présence en faisant les tombées. Bon, c'était histoire de dire qu'ensuite on a eu Adam Pearce qui a exclu Omos du stade. Ouais, pourquoi pas. Très étonné aussi par Jeff Hardy qui, j'ai l'impression, a quasiment rien fait du match et a pourtant réussi à durer longtemps et à faire quelques trucs. Hein,
Camouflé en noir, on ne le voyait pas quand il était allé par terre. C'était mal.
Voilà, c'est ça. Non, mais il a fait trois Twist of Fate et puis un ou deux Swanton de bombe. Il s'en sort avec les honneurs hein, pour quelqu'un de 45 ans et tout. Et voilà, il y a eu un Claymore. Et puis, bah, quand même, la grosse surprise, c'est, je trouve, Sheamus qui sort finalement assez vite, mais qui a fait une grosse perf. Je trouve que Sheamus et Cesaro, ils sont un peu en parallèle. Là, on les attendait beaucoup. Ils ont fait un gros match, mais ils sont sortis de manière assez inattendue. AJ Styles est toujours booké très fort. Hein. Là, il arrive, il est finaliste. Donc, bravo AJ Styles. Et puis, pour le coup, je trouve que là, on a, même s'il était assez prévisible puisqu'on l'avait pronostiqué, on a un beau vainqueur, voilà, Drew McIntyre gagne l'Elimination Chamber, c'est ce qu'on prévoyait. Et honnêtement, je suis peut-être pas un grand visionnaire, mais je m'attendais pas à cette fin-là du tout. J'avais vu le Miz et MVP parler backstage et j'avais déjà préparé dans ma tête que j'allais dire à cette analyse « Ah, ça, c'est une piste pour la suite qui m'intéresse, une alliance peut-être entre Morrison et le Miz, et puis MVP et Bobby Lashley, je ne sais pas. » Et je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve en fait la clé de l'énigme si rapidement. Bobby Lashley qui arrive et qui tabasse Drew McIntyre. En plus, je regardais le timing de ma vidéo et je me dis « Putain, là, il faut que le Miz cache. » Mais en fait, ça a été assez long, le tabassage de Bobby Lashley. Et plus ça approchait, plus je me dis « Eh ben non, il va pas venir. » Alors, et j'étais partagé entre « Merde, c'est nul, enfin, c'est complètement con de pas venir maintenant. » Et en même temps, je me disais « Ah, ben, ça va peut-être être un premier avertissement pour la suite. » Et donc, finalement, quand le Miz est arrivé, eh ben, je dois avouer que pour moi, c'est la copie parfaite. Quoi. Le Miz, il a récupéré le Money in the Bank des mains de Otis. Donc, on était tous, et notamment notre ami Tonton, on était assez déprimés par par ce porteur de mallette-là assez insignifiant. Il a fait quand même un premier cash-in à TLC. Il a réussi à récupérer sa mallette dans la foulée grâce à une belle fourberie. Là, rappelons-nous qu'il devait être dans l'Elimination Chamber jusqu'à il y a une semaine. Il s'en est retiré en nous annonçant « J'en ai pas besoin, j'ai ma mallette. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a pas eu besoin. Il a caché sa mallette. Pour moi, là, c'est autant le match tout autour de SmackDown et de Reigns, c'était la déception. Autant là, c'est parfait, en fait, j'ai envie de dire j'aime bien le Miz, mais je sais, je me doute qu'il fera pas un règne très long et qu'il sera pas un gros champion, mais voilà, le Miz 10 ans après et 2 fois champion de la WWE, ce mec a passé plus d'une décennie à être un des grands catcheurs de la fédération, à être très souvent là pour le titre intercontinental, pour les titres tag team, il a fait énormément d'apparitions télé, cinéma et tout, donc Pour moi, il est complètement legit. Drew McIntyre, qui est un champion booké très, 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 très fort, peut-être même trop fort, trouve une tête de titre logique. Je suis content. Là, fin de show, voilà, on me dit le Miz, chucking new champion. Pour moi, on a réussi ce qu'on l'avait dit tous les deux, hein, Elimination Chamber, pay-per-view qui apporte des surprises. Et bah, pour moi, la surprise est réussie. Elle est cohérente, elle est bien exécutée. Le Miz est très intelligent. C'est. Il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. C'est bien joué.
Ouais, alors, encore une fois, le match est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi, hein, le traitement du cash-in du Miz est quand même joliment exécuté. C'est super malin de faire intervenir Lashley en premier. Je regrette juste qu'on ait vu cette séquence, effectivement, backstage où ça discute avec MVP.
Ouais, peut-être un peu trop, ouais.
Et puis, surtout dans le package vidéo qui précède le match, il est omniprésent, le Miz, dedans. Donc, oui. Voilà. Au moins, bon, c'est peut-être pour ne pas perdre les gens qui n'ont peut-être pas suivi depuis longtemps, etc. etc. Mais ça évente peut-être un petit peu le rebondissement de fin de show.
Oui.
Mais bon, après, concrètement, c'est super pour le Miz, du coup, qui a réussi son pari, qui a réussi son coup. Il s'impose comme le top heel de la fédération, plus malin que tout, le vrai ultimate opportuniste.
Ouais.
Par contre, moi, je trouve que c'est super sec pour le reste des gens qui participent à l'Elimination Chamber. Alors, j'espère qu'ils ont des plans pour la route pour Mania pour un peu tout le monde, surtout qu'il y a deux soirs à Mania, donc il y a de la place pour tout le monde.
Mm.
Mais concrètement, AJ Styles, à part le fait qu'il a Omos avec lui, il n'y a rien de spécial pour lui. Jeff Hardy non plus, on n'en parle même pas. Kofi Kingston, moi j'attendais fermement qu'il se passe quelque chose avec Mustafa Ali. Au final, Podzob. Et il perd aussi, voilà, c'est un mec qui a participé à l'Elimination Chamber, rien de plus. Randy Orton, alors moi ça m'aurait pas dérangé de voir, je sais pas, une apparition de effectivement Alexa Bliss ou quoi, juste pour le distraire, pas pour complètement foutre en l'air le match, mais j'aurais préféré ça que de le voir perdre sur un roll-up qui sert à rien. Je trouve qu'ils ont complètement abandonné la low-card, la mid-card, la up-card au niveau des scénarios. Il y a juste un scénario pour le titre suprême, pour arriver au bout d'un truc qui quand même s'écrit tout seul, hein, le Miz qui prend le titre à l'Elimination Chamber, c'est un peu logique, hein, quelque part. Même si c'est joliment exécuté, ça n'a rien de révolutionnaire. Et au final, pour le reste, il n'y a rien, il n'y a que des miettes. Je suis assez content quand même d'avoir un Drew McIntyre qui ne s'accroche pas au titre. Ça, c'est bien parce que ça va redonner un petit peu de peps à Monday Night Raw. Mais sinon, c'est super triste, je trouve, au niveau des scénarios pour tous ceux qui ne sont pas dans le main event. Il n'y a rien. Rien du tout, rien pour personne. Alors je pense que ça va se mettre en branle maintenant que c'est fini, qu'on va aller vers Fastlane.
Ouais.
Mais j'ai aussi peur qu'on se dirige vers un Miz Bad Bunny. Hein, peut-être à Mania, tant qu'on y est. Mais ouais. Bon, de l'avis général, le Miz devrait perdre rapidement son titre. Vu que ça circule partout, moi je ne serais pas surpris de voir la WWE. Faire un coup et de lui laisser le titre jusqu'à Mania, ça m'étonnerait qu'à moitié. On verra bien, parce qu'apparemment c'est plutôt Bobby Lashley qui est dans les plans, mais il faut toujours se méfier des plans trop prévisibles qu'ils ont connus à l'avance.
C'est sûr, Bobby Lashley devait battre Brock Lesnar. Hein.
Ouais, il devait se passer tellement de choses.
Eva Marie va remplacer Lacey Evans.
Lana devait gagner le Rumble, hein, sans rien faire, je vous rappelle.
Oui. Sol Survivor.
C'était évident. C'était évident. On a annoncé aussi Braun Strowman, hein, comme le challenger numéro 1 pour Drew McIntyre.
Ouais.
Voilà. Rien ne se passe jamais comme prévu, donc on va leur laisser le bénéfice du doute. Mais je trouve que franchement, ils ont vraiment fait aucun effort, quoi. Ils ont eu un scénario qui était déjà prédéterminé pour le cash-in de la mallette. Ils ont travaillé Roman Reigns et Edge. Et le reste, il n'y a rien du tout. Reginald. Et voilà. Et puis c'est tout.
Ouais.
S'il y a un petit travail sur Lashley, allez.
Ouais.
Je suis gentil.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est dans la road to WrestleMania et les temporalités me paraissent étonnantes.
Mm.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'habitude, alors c'est toujours un peu difficile, des fois chaque année on a l'impression que c'est la pire road pour WrestleMania, j'ai l'impression, et que l'année d'avant était mieux. Mais j'ai l'impression que d'habitude, c'est la période où des feuds se créent, et notamment au Rumble, entre les mecs qui s'éliminent, ça crée des tensions, ça crée des feuds. Là, on n'a rien eu. Enfin, le Rumble n'a pas créé de feuds. Et l'Elimination Chamber, à voir, hein, il va falloir Raw et SmackDown, mais je vois pas trop ce que ça peut créer comme feud. Les mecs se sont éliminés tous de manière assez légitime. Je sais pas si on va avoir une feud Kofi Kingston contre Randy Orton, mais je ne pense pas, on l'a déjà eu souvent. Donc je vois pas trop, comme tu l'as dit, ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de graines qui sont plantées pour la suite. Après, c'est vrai qu'on a Fastlane, et à mon avis, il va se passer beaucoup de choses. Moi, j'ai du mal encore à visualiser, hein, parce que le Miz arrivé champion à WrestleMania, je ne sais pas. En même temps, Drew McIntyre, c'est quand même la tête d'affiche de la WWE et de Raw depuis plus d'un an. Si tout d'un coup, là, WrestleMania, qui est dans un peu plus d'un mois et demi, il est ni dans la tête ni champion ni challenger, ça ferait un peu bizarre, hein, ça serait un peu décevant pour lui, il faut dire ce qui est. Alors peut-être que Drew va récupérer son titre une troisième fois, et puis ce coup-ci il va affronter Bobby Lashley à Mania, peut-être.
Je vois plus McIntyre reprendre son titre à Mania.
Oui, c'est à Mania.
Ouais, pour qu'il ait une victoire devant du public. Parce qu'il a, ouais. Finalement, il n'a pas eu sa victoire devant le public, quoi, sa prise de titre devant le public.
Donc toi, tu verrais presque, tu verrais Miz McIntyre comme affiche à Mania.
Ou un triple threat.
Peut-être, ouais.
Machin. Je pense qu'à Fastlane, peut-être, il va... Alors, j'étais parti sur un Miz Bad Bunny, ça c'est dans la pire des probabilités, mais je me dis pourquoi pas le Miz affronte Damien Priest à Fastlane.
Ouais.
Il bat Damien Priest, et un triple threat pour Mania avec Lashley et Drew McIntyre. Drew McIntyre et Lashley peuvent se raffronter, par exemple, à Fastlane.
C'est vrai.
Parce que pour McIntyre, je pense qu'il va quand même en vouloir à Lashley de lui avoir... péter la gueule, c'est de la faute de Lashley s'il perd le titre.
Ah bah oui, clairement. Mais comme il y a Sheamus aussi un peu dans l'équation, je sais plus trop.
Ouais, et ouais, et voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce Sheamus là qui était parti pour atteindre les sommets. Mais ça ouvre des pistes quand même, mais ça ouvre des pistes pour le titre suprême, quoi. Ça ouvre pas des pistes pour ce qui se passe en dessous, quoi.
On peut avoir une feud de Sheamus et Gestalt. Hein. Gestalt, j'ai presque l'impression qu'il bascule face. Mais bon, ouais. Presque.
Mm-hmm. Après, rien n'empêche d'avoir deux matchs à Mania, hein. Il y a deux journées.
On peut avoir
un premier match mis pour McIntyre ou Lashley, et le lendemain, McIntyre-Lashley, par exemple.
C'est possible. Ça reste assez étonnant que le Miz... Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça s'écrivait tout seul, mais d'un autre côté, c'est hyper... C'est quand même, ça rebat toutes les cartes d'avoir le Miz champion, hein, ça, clairement.
Ouais, reste salement efficace. Hein, c'est sûr.
On se dit, putain, oui, on pensait à Lashley, on pensait à Sheamus. Bon, là, on sait plus rien, quoi. Le Miz, on sait plus. Moi, je veux bien le match contre Bad Bunny un jour à Raw, quoi. Enfin, ça va peut-être arriver assez vite, mais ça, on verra. Et puis, ça m'intéresse aussi, quand même, tu vois, de voir, parce que Morrison, mine de rien, ce qu'il a fait. Ça va pas trop plaire à MVP, donc est-ce qu'on va vers une tension entre Morrison et le Miz, entre Morrison et MVP, donc Bobby Lashley, enfin il y a pas mal de possibilités, mais comme tu dis, c'est tout ça la même feud un peu. Après, ça me dérange pas.
C'est un peu tous des heels, à moins que Bobby Lashley passe face.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
C'est impossible, on est entre heels, enfin c'est bizarre.
Ben ouais, même chez MU c'est heel, AJ Styles a priori oui. Bon, Jeff Hardy, moi je pense qu'il était dans la cage juste pour la gimmick ancien champion du monde, hein. Il a pas d'espoir pour Jeff Hardy, hein, pas beaucoup, hein. Mais bon, après il faudra bien un adversaire à Riddle, hein. On a eu des excellents Sheamus Riddle cet été, hein. Donc on peut aussi avoir ça ou un truc comme...
ouais c'est un bon adversaire pour Riddle, Sheamus.
Ouais, on verra bien. Écoute, en tout cas moi je trouve quand même que la fin c'est ça, en fait, c'est à la fois c'était prévisible mais quand même étonnant, et ouais, c'est
c'était bien exécuté, hein.
c'est bien exécuté, c'est bien dosé. Et puis je trouve, au-delà de ça, que ça fait énormément de bien au concept du Money in the Bank, parce que ces dernières années, on en a bouffé de la merde. Que ce soit Otis, que ce soit car il y avait eu Strowman avec un cash-in raté, ou Corbin, ou même quand Lesnar a eu son cash-in, c'était un peu pas terrible. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un si beau cash-in, je pense.
Ouais. Et puis même les deux matchs à Elimination Chamber étaient plutôt pas mal, parce que c'était pas non plus la joie chaque année.
Non.
Il est vraiment mal placé, ce show, de toute façon. Et la Money in the Bank, ça a fait son temps aussi, moi, je trouve. Mais pourtant, c'est quand même un outil scénaristique qui n'est pas négligeable. C'est dommage qu'il se casse les dents comme ça assez souvent.
Et ouais.
Donc voilà, une fin qui sauve le show, on va dire.
Ouais.
Un show en demi-teinte avec des belles exécutions. Du bon catch, mais un peu de flémardise au niveau de la scénarisation, je dirais. D'ailleurs, c'est le mot de la fin. Hein, il est temps. Il faut donner un top, un flop et une note. C'est ça le concept.
C'est ça. Eh bien, écoute, je vais donner mon top. Hein. Quand on parle de top, je vais le donner au Miz. Voilà. Bien, très beau cash-in, très beau champion, pas de problème, belle prise de titre, bravo Miz, ça me fait plaisir, ça me sauve la fin, ça me sauve le show même, hein. pas honte de le dire, Papier est d'accord avec moi, hein, il a dit la prise de titre du Miz majeure la note, lui il avait mis son top à Bobby Lashley, hein, Papy, mon flop, il le donnait à, comment on pourrait dire ça, à l'issue du titre de SmackDown, c'est-à-dire là pour le coup, voilà, c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour Raw, je trouve. C'est le gagnant, ça lui rapporte aucun prestige. Autant Drew, ça lui fait un jeune champion, Drew, c'est bien. Autant Daniel Bryan, je pense qu'on aura oublié dans un an. Et puis en fait, il s'est passé exactement ce qui se serait passé si c'est pas du catch mais un simple sport classique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de scénario d'overbooking, juste le plus fort qui affronte le plus faible, le plus faible, celui qui a catché pendant une demi-heure, donc non, je suis très su de ça, et tu l'as dit, toujours en demi-teinte, donc pour moi ça sera 2,5, ni plus ni moins. J'ai pu mettre moins parce que en fait c'était clairement un pay-per-view à Elimination Chamber match, hein, et les deux matchs du milieu, que deux matchs du milieu, c'est bizarre, n'ont été absolument pas intéressants, mais bon, on a quand même eu des gros matchs à Elimination Chamber, donc 2,5.
2,5, ouais. 34 minutes 20, le premier match Elimination Chamber.
Ok.
1,36, le titre universal, le match, entre Daniel Bryan et Roman Reigns.
Ah oui, bien sûr.
Le triple frit pour le titre US, ça dure 8 minutes 38. 9,36 pour le match féminin, il est plus long que le triple frit. Et 31 minutes 21 pour le deuxième Elimination Chamber.
D'accord.
28 secondes, le match pour le titre Miz Drew McIntyre. Donc ça fait quoi ? 30 minutes, ça fait 1h, 1h20, 1h30, allez, 1h40 de catch sur 2h30 de show, quoi.
Bon, moi j'aime bien, hein, ces pay-per-view, on va dire, ces pay-per-view Corona Mania qui sont quand même beaucoup moins longs. Enfin, moi je ne pouvais plus. Hein,
ouais, il vaut mieux que. Ouais, ouais.
L'époque
enfin,
où on
que
avait.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quasiment.
4 heures.
Il y a,
oui.
il y a quasiment 1 heure où il n'y a pas de. C'est que du remplissage avec des packages vidéo et des entrées, quoi.
Oui, c'est sûr. Bon, ouais.
C'est après, sûr. C'était quand même digeste. Je suis d'accord. Je me suis pas ennuyé.
C'est ça.
Ouais. Et c'est bien pour ça que je vais donner mon flop à la victoire de Daniel Bryan.
Ouais.
Je pense que ça aurait mieux marché avec Cesaro.
Clairement.
Il fallait donner la victoire à Cesaro. Le top, je vais le donner à Sami Zayn, qui était excellent du début à la fin.
C'est vrai.
Même si, ça lui apporte pas grand-chose, mais j'ai aimé toutes ses interventions. Je vais aussi donner 2,5 pourrait presque donner moins, mais allez, le final quand même. Voilà, ça nous laisse un petit peu sur le cul. C'était bien sympa, mais il y a vraiment gros carton rouge là au niveau de la scénarisation vraiment feignante là. Et malheureusement, une route vers Mania, c'est un peu là où tu peux créer tes stars, quoi. C'est un peu. Enfin bon, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt le tapis rouge pour les part-timers et les grosses stars, quoi. Mais cette année, il n'y en a pas. Donc, autant essayer de continuer à construire les. Et pas forcément les jeunes, parce que Cesaro, ça commence à être un vétéran aussi, quoi.
Ouais.
Mais essayer de nous construire des stars, quoi, les gars. Là, les mecs, ils font rien, quoi. Donc voilà, grosse fainéantise, c'est pas top, quoi.
J'attends de voir pour conclure ça. Je suis d'accord avec toi sur l'analyse de la soirée. Après, je trouve qu'ils ont réussi, avant le pay-per-view et même pendant, à nous faire dire, c'est ce que j'ai dit en conclusion de notre analyse de SmackDown, putain, il y a un beau plateau, quoi. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'ils ont essayé de nous les légitimer via le catch, hein, que ce soit, comme tu l'as dit, Cesaro qui a fait une grosse perf, Kevin Owens qui a régalé dans tous les sens. Je pense que peut-être on va avoir des beaux matchs, des belles interactions, parce que quand même, c'est vrai, les part-timers sont pas là et pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On n'a pas de Goldberg, on n'a pas de Lesnar, on n'a pas de show en Arabie Saoudite qui vont tout nous foutre en bordel dans 3 jours, hein, Remember l'an dernier. Donc, je pense qu'ils sont obligés de construire des stars et peut-être que là, on s'en rend pas compte, on se dit c'est mal fait. Et l'éternel espoir du fan de catch. Je me dis que ça peut venir assez vite là. Avec ces quelques mecs-là. Voilà, Owens, Zayn, Cesaro, qui s'est connu, AJ Styles, Sheamus, il y a un peu de place pour faire quelque chose de bien, sachant qu'en plus, on l'a dit, WrestleMania en 2 soirs, là, il va falloir faire des matchs. Donc, un peu d'espoir.
Ouais, un peu d'espoir. Il y a tout à construire et il y a Fastlane entre-temps pour s'appuyer dessus. Non, ça peut...
ouais.
Voilà, ça ouvre des pistes. C'est au moins ça. Même si dans l'absolu, je reste un petit peu déception.
Oui.
De toute façon, on va se retrouver pour parler de Monday Night Raw. Non, on va tout de suite voir ce que ça donne dans l'Euro du lendemain. Donc vous pourrez retrouver notre analyse d'ici quelques temps. Pour le reste, je vous rappelle qu'on est disponible donc sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast. Il faut vous abonner si c'est pas déjà le cas, hein. Vous figurez-vous que c'est gratos.
Oui, allez-y, oui.
Vous, hein, tiltez la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que ça sort.
Tape la cloche.
Il y a au moins 2-3 émissions par semaine, hein, maintenant.
Ring the bell.
Ring the bell. N'hésitez pas, comme ça vous ne loupez rien, hein, gratuitement. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook et on est sur Instagram.
Ouais, c'est moi. Voilà, tout... Le petit derrière le community manager sur Instagram, j'essaie de lancer un petit peu le compte parce qu'on n'y sait pas grand-chose. Donc n'hésitez pas à suivre. Je partage des mèmes de catch américains, des petites images un peu rigolotes. Donc voilà. Si vous avez un compte Instagram, si vous avez, n'hésitez pas et puis on va rigoler.
C'est ça, lancez le mouvement.
Yes.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, hein, carrément, si vous voulez parler avec nous.
Ouais. Et donner vos pronos. Je voulais faire au passage un petit coucou à...
Ah oui.
J'espère que j'ai bien le prononcé, qu'il ne m'en veuille pas. Xel Texen, qui nous avait pronostiqué... un sans faute, mais il nous a mis le pronostic à 1h50 du matin. Est-ce que le show n'était pas déjà... Est-ce qu'il n'aurait pas un peu triché? Non, je pense pas. Hein. Non, c'est pas fini. Hein.
Non,
à 1h50 du matin, heure française.
C'était le début.
Voilà. Enfin, il nous dit sans faute. Il voyait Lacey Evans par disqualification, donc...
Ah oui.
Mais bon.
Ouais, et puis le triple threat, ça compte pas.
Ouais, mais il a vu Riddle. Donc...
Ouais,
pas trop mal.
Comme le line-up est pas le bon, je pense qu'on peut dire qu'il a eu faux et que c'est plus nous qui avons fait un sans faute.
Ah ouais, finalement, c'est nous qui avons fait un perfect.
Si on regarde bien.
Ouais, t'as raison. Ouais. Voilà.
Ouais, bon, c'est le destin, hein, qui veut.
Mais
bien tenté, quand même, Mr. X. Et jolie analyse des feuds. Oui, je crois qu'on a plusieurs personnes, hein, qui ont participé au pronom, mais malheureusement, comme on a enregistré un petit peu tôt dans le week-end, et puis surtout que c'était un peu mal goupillé hein, par la WWE, on va pas se mentir, cette carte.
Oui.
Je pense qu'à partir de WrestleMania, on va peut-être lancer un vrai concours de pronos. Qu'est-ce que t'en penses ?
Allez, ouais.
Hein ? Imaginons ça.
C'est sûr.
Je crois que tu t'occupais sur les cahiers du catch et que t'en as peut-être pas trop chaud pour te remettre au fichier Excel et compagnie.
Non, j'ai pas trop fait ça. C'était plutôt nos gratrons, mais oui, on faisait des et tout. Non, mais après, on peut essayer de réfléchir à quelque chose. On va essayer. Dites-nous si vous avez des idées de concours.
Voilà. Un petit top départ pour WrestleMania, on prend vraiment les comptes parce que là on le fait un petit peu à l'arrache. Voilà, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, qu'est-ce qu'on a à rajouter ? Rien d'autre, j'ai plus qu'à te remercier pour ta présence, mon bon Raph.
Eh bien, je n'ai plus qu'à te remercier. Présentation et ton hosting de qualité ringside. Félicitations et merci.
Mais c'est trop gentil. Et ben voilà, ben les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye.
À très bientôt. Ciao, peuple de catch.
Saturé en chuchotant.